Parlons d'Europe, Léa-Lisa Vesterov.
Che il premio Sakharov gratifique.
Bonjour, n'abandonnez pas votre combat, nous sommes à vos côtés. Ce sont les mots du président du Parlement européen hier, alors qu'il décernait le prix Sakharov des droits de l'homme à l'opposition démocratique en Biélorussie. Ce prix arrive à un moment clé, l'opposante en exil, Svetlana Tikhanovskaya, qui conteste les résultats de la présidentielle, a donné jusqu'à ce dimanche au président Alexandre Loukachenko pour quitter le pouvoir. Depuis sa réélection très contestée en août dernier, le pays est secoué par des manifestations inédites et violemment réprimées. Les organisations de défense des droits de l'homme dénoncent des milliers d'arrestations arbitraires parmi les manifestants et des actes de torture. Résultat, près de 700 Biélorusses se sont réfugiés en Pologne voisine. Notre correspondante Sara Bakaloglou s'est rendue dans la ville polonaise de Biała Podlaska, près de la frontière avec la Biélorussie. Son reportage.
Au volant de sa voiture, Pavel Anouchka est sans cesse interrompu par la sonnerie de son téléphone. Ce Biélorusse de 39 ans, arrivé en Pologne en 2015 pour créer son entreprise, a vu son quotidien changer il y a quelques semaines.
Deux semaines après l'élection présidentielle, des amis m'ont appelé et m'ont dit « Tu sais que des réfugiés biélorusses sont ici, dans cet hôtel ?» J'y suis allé, je leur ai parlé, ils m'ont raconté la violence, la torture. Alors j'ai créé ma fondation, c'est une tradition biélorusse. Le gouvernement n'a jamais pu aider les gens, donc la population s'entraide.
Plusieurs fois par semaine, Pavel Anouchka se rend devant les centres pour demandeurs d'asile de Biała Podlaska, qui accueille près de 60 Biélorusses, dans ses bras couvertures ou vêtements. Ce matin-là, masque sur le visage, bonnet sur la tête, Yaroslav, un nom d'emprunt, est posté devant le centre. Ce professeur est arrivé ici il y a 20 jours, menacé par la police biélorusse, emprisonné plusieurs jours pour ses activités politiques. Il a pris la fuite, laissant sa femme et sa fille derrière lui.
Je pense que Loukachenko voulait que ses opposants quittent le pays, parce que régulièrement, la police me disait « Allez, va dans ta Pologne, dans ta Lituanie ». Je leur disais « Mais pourquoi ma Pologne ?» Ils répondaient « Parce que la Pologne te donne de l'argent pour que tu agisses comme un terroriste ici ».
Sa fuite en Pologne a été précédée par des semaines de pression policière. Il nous montre son téléphone, déverrouillable grâce à deux codes. L'un permet de faire disparaître les informations personnelles, des précautions vitales face à la répression des voix dissidentes au pouvoir.
Souvent, la police t'arrête, te prend ton téléphone, te demande le mot de passe, le mot de passe. Tu ne réponds pas, ils prennent ton doigt et le pressent sur l'écran. Et ils cherchent des photos, des vidéos. Quand j'étais déjà ici, ma famille m'a raconté qu'en Biélorussie, ma petite fille est allée en ville, une voiture s'est arrêtée, trois hommes l'ont entourée et l'ont prise en photo et sont partis. Elle a eu tellement peur.
Sur son portable, Pavel Anouchka nous fait écouter une chanson composée par un artiste biélorusse en soutien aux opposants. Jamais les Biélorusses rencontrés n'ont imaginé qu'ils devraient un jour fuir leur patrie. À la fierté de voir leur pays se soulever contre le dictateur au pouvoir depuis 26 ans, se mêle la souffrance d'avoir quitté la Biélorussie. Igor, membre d'un parti d'opposition biélorusse, a jusqu'au bout espéré pouvoir rester. Il vit aujourd'hui dans le même centre d'accueil que Yaroslav.
Une source m'a confié que dans 3 heures, je serai arrêté. J'ai dit à ma femme qu'elle devait partir avec ma fille, mais elle m'a répondu qu'elle ne voulait pas être veuve. Alors on a pris tout ce qu'on a pu chez nous, on est allé dans la ville de Brest, près de la frontière. On est resté là-bas une semaine en espérant que les manifestations marcheraient et que nous n'aurions pas à fuir, mais cela n'a pas marché.
Après un passage par l'Ukraine, ils arrivent finalement en Pologne. Politiquement, Varsovie affiche un soutien fort depuis le début aux opposants biélorusses. Mais les conditions d'accueil dans les centres sont plus que sommaires, pas de papier toilette, ni de produits d'hygiène, des souris dans les chambres. Et les autorités polonaises versent 15 euros par mois seulement à chaque résident, une somme dérisoire.
Je pense que la Pologne s'attendait à ce que les Biélorusses arrivent avec de l'argent, pas en tant que réfugiés et pas en si grand nombre. Aujourd'hui, je crains que le processus pour faire partir Loukachenko prenne davantage qu'une année. Alors nous serons forcés de rester ici, car on veut se sentir à la maison. On ne sera pas capable de tout quitter une fois de plus. On restera probablement en Pologne jusqu'à la fin de notre vie.
Le Parlement polonais doit voter l'autorisation de travailler en Pologne pour ceux qui détiennent un visa humanitaire. Des visas désormais impossibles à demander selon les ONG depuis que Varsovie a rappelé son personnel diplomatique de Biélorussie, même si les citoyens en situation de danger extrême sont encore encouragés à traverser la frontière.
Quand les plaies américaines réveillent les nôtres, à un peu plus d'une semaine de la présidentielle aux États-Unis, où en est le mouvement Black Lives Matter en Europe? En juin, des manifestations contre les violences raciales étaient nées partout sur le continent. 5 mois plus tard, la jeunesse noire irlandaise continue le combat contre le racisme et la discrimination. Et beaucoup reste à faire. Emeline Vin à Dublin.
Yesterday, I started a discussion on my story and someone wrote in asking, why are we still talking about racism?
13 000 vues en une semaine pour sa vidéo « Pourquoi nous devons continuer à parler du racisme ?» Ce n'est pas la première, publiée par Amanda Adé, enregistrée dans son appartement avec son téléphone. Cheveux courts et grandes boucles d'oreilles, la jeune femme a commencé à militer activement dans la foulée du mouvement Black Lives Matter. 5 mois plus tard, elle est convaincue qu'il ne faut surtout pas s'arrêter.
Ça m'attriste parce qu'on n'essaie pas de résoudre le problème du racisme, on l'a seulement identifié. C'est pour ça que j'ai publié « On ne peut pas s'arrêter de parler de ça », parce que ça touche les vrais gens dans leur vraie vie. On ne peut pas juste laisser la mode passer.
La jeune laborantine qui se consacre pour l'instant à 100% à la lutte contre le racisme refuse de voir l'Irlande comme un pays raciste. Mais toute sa vie, elle a été confrontée aux discriminations dans son pays.
Par exemple, quand j'étais à la fac et que je cherchais un logement, j'ai appelé un propriétaire et tout s'est très bien passé au téléphone. Mais quand il m'a vu, il a dit « Oh, mais vous n'aviez pas l'accent africain au téléphone. Mec, je vis en Irlande depuis que j'ai 1 an, tu t'attends à quoi ? Je n'ai pas eu l'appartement, donc le racisme, c'est la seule raison que je trouve. Parce qu'au téléphone, il était prêt à me louer cet appartement. »
Sur les réseaux sociaux, d'autres comptes font entendre les voix de la communauté noire irlandaise, comme la page Instagram Black and Irish, noir et irlandais, 41 000 abonnés qui racontent les histoires des personnes de couleur.
Notre but, c'est de contribuer à changer les mentalités.
Bonnie Odomene, qui a étendu dans son appartement un grand drapeau nigérian, où il a des racines, a cofondé la page cet été.
Nous avons reçu plein de messages de personnes qui n'avaient pas conscience, qui n'avaient pas réalisé et nous ont dit « Ah oui, je n'aurais jamais imaginé que mon enfant métisse, que mon ami noir avait pu subir ça dans sa vie. J'ai changé ma vision des choses. »
Avec ses amis Léon Diop et Femi Bancol, il publie ce mois-ci des anecdotes historiques sur les Noirs et l'Irlande.
Dans les archives, il y a des traces de personnes noires en Irlande au XVIIIe et XIXe siècle. Les personnes noires ont pris part à la guerre d'indépendance, au sport irlandais, à la musique, etc. Avec Black and Irish, ce qu'on veut, c'est tordre le cou à cette idée reçue qu'on ne peut pas être noir et irlandais.
Selon le dernier recensement en 2016, 3000 personnes s'identifient comme étant noires. L'Irlande permet de spécifier l'origine ethnique dans les statistiques officielles, mais malgré cet outil, elle manque de données sur la discrimination raciale. Lucy Michael est docteur en criminologie, auteur d'un rapport sur l'afrophobie en Irlande.
En 2009, le gouvernement a fermé l'agence semi-étatique chargée de collecter les données ethniques. La police ne fournit pas des données suffisantes. Le réseau irlandais contre le racisme a mis en place un système de déclaration d'incidents racistes pour ceux qui ont subi ou assisté à ces actes.
En 2019, 530 incidents à caractère raciste ont ainsi été rapportés à ce réseau, un chiffre qui ne représente que la pointe de l'iceberg pour la chercheuse. Pour combattre ce racisme, il faut avant toute chose que l'Irlande accepte que la discrimination raciale existe, estime Lucy Michael.
L'histoire coloniale de l'Irlande, où l'Irlande est colonisée par le Royaume-Uni et donc victime, a servi de prétexte pour dire « mais on n'a jamais asservi personne ». Ce n'est pas vrai en réalité. De nombreuses maisons ont été construites avec l'argent des plantations de sucre, esclavagistes. De nombreuses familles s'en sont sorties parce qu'un membre de la famille était parti dans les colonies.
Pour l'universitaire Lucy Michael, comme pour les activistes de la cause noire, les enseignants devraient être mieux formés et sensibilisés à la problématique raciste. Autre demande de la militante Amanda Adé, obtenir un texte de loi qui reconnaisse le caractère raciste d'une agression comme circonstance aggravante.
Une loi apporterait une certaine protection aux victimes et rendrait les coupables plus responsables. Mais je ne veux pas juste être tolérée, je veux être acceptée, je veux qu'on se comprenne les uns les autres. C'est le principal et c'est certainement le plus dur aussi.
La jeune militante dit vouloir avant tout bâtir une Irlande plus accueillante pour tous.
Au Royaume-Uni, l'une des marques de soutien à ce mouvement de société passe par les vêtements et les bijoux. Mais vous allez l'entendre, soutenir Black Lives Matter en public quand on est une personnalité médiatique n'a rien d'évident. En Angleterre, cela suscite même des plaintes et des réclamations. Marie Billon.
Elles sont difficiles à lire, ces trois lettres, sur un collier à trois étages d'un doré étincelant, BLM, un acronyme simplement dur à déchiffrer pour certains, dur à accepter pour d'autres. C'est la chanteuse Alesha Dixon qui portait ce bijou dans l'émission populaire qui repère les jeunes artistes Britain's Got Talent fin septembre. Plus de 1900 plaintes ont été déposées auprès des autorités audiovisuelles contre ce bijou. L'artiste le portait en solidarité avec le groupe de danse Diversity qui, dans la même émission, venait de susciter plus de 24 000 plaintes pour avoir mis en scène un policier s'agenouillant sur le cou d'un homme rappelant la mort de George Floyd.
What we thought we knew, some clearly didn't. Black lives matter.
Les spectateurs ont estimé que cette émission de variété ne devrait pas être politisée. Le coureur automobile Lewis Hamilton a été interdit de porter un t-shirt en soutien au Black Lives Matter. La joueuse de tennis Naomi Osaka a été réprimandée pour avoir utilisé des masques coronavirus rendant hommage aux victimes noires de violences policières. Selon l'historien de la mode, l'américain Darnell Jamal Disby, ces plaintes et ces interdictions ont une cause. Le mouvement Black Lives Matter est vu comme une menace.
You have these black fashion,
tous ces athlètes, icônes de la mode, stars du divertissement noir, ont réussi à s'introduire dans ces mondes dominés par les blancs. Certains trouvent ça menaçant, car cela remet en cause leur pouvoir.
Darnell Jamal Lisby rappelle cependant que la mode est utilisée depuis très longtemps par des militants.
Au début du XXe siècle, les suffragettes s'habillaient en blanc. C'était l'identité visuelle du mouvement. Dans les années 60-70, le mouvement Black is Beautiful a adopté l'afro. La mode a souvent été un mode de protestation. Black Lives Matter s'inscrit dans cette tendance.
Si ce n'est qu'il n'y a pas un code esthétique unique, précise l'historien, puisque le but de Black Lives Matter est aussi de célébrer l'individualité de chacun. C'est un choix conscient du mouvement pour permettre au maximum de gens, d'horizons et d'origines aussi diverses que possible, de signaler leur soutien à leur manière.
Decimos no al racismo.
Ney, déjà racisme.
Nein,
tu
racisme.
Non au racisme.
Non à le racisme.
No to racism.
En Italie, c'est le monde du football qui a été le plus secoué par ce mouvement de société né aux États-Unis. Le slogan « Black Lives Matter » est ainsi arrivé sous forme d'écusson sur tous les maillots des joueurs de l'équipe de foot romaine. Un geste fort dans un milieu où le racisme est toujours particulièrement répandu. Cécile Debarge.
Ce n'est plus suffisant de ne pas être raciste, il faut être antiraciste. La prise de position est forte, c'est celle du club de football de l'AS Roma, pour justifier sa décision d'arborer pour les 12 prochains matchs du championnat un maillot surmonté d'un écusson Black Lives Matter, en soutien au mouvement mondial contre la discrimination des personnes noires. Les maillots seront ensuite vendus aux enchères et les fonds distribués à des associations qui luttent contre le racisme. Avant cette initiative, lors d'un entraînement à Trigoria, l'entraîneur de l'équipe, Paolo Fonseca, avait demandé à ses joueurs de se recueillir, un genou posé par terre avec ce geste devenu le symbole du mouvement. Plusieurs joueurs, comme Romelu Lukaku à l'Inter de Milan, l'ont aussi fait sur le terrain, notamment après avoir été pris à partie par des supporters qui hurlaient des insultes racistes à leur égard. Une situation que Koulibaly Kalidou, joueur sénégalais qui évolue à Naples, connaît bien, comme il le raconte dans le cadre d'une campagne de l'UEFA pour lutter contre le racisme dans le football.
Je voyais qu'à chaque fois que je touchais le ballon, il y avait des cris de, on va dire, de sages qui étaient faits à mon encontre. Ça me donne vraiment mal au cœur et j'espère qu'il y aura une lutte qui sera faite contre ça.
Il y a aussi eu ce geste de Mario Balotelli lors d'un match qui, fatigué d'être hué par les supporters dès qu'il jouait, a lancé le ballon en direction de la tribune en criant « Basta » et en quittant le terrain. Le racisme est tellement présent qu'en novembre 2019, les clubs de Serie A avaient publié une lettre ouverte pour s'engager à mieux faire pour lutter contre les insultes racistes. Un vœu pieux au vu des maladresses répétées par les instances du football italien. Exemple, pour éviter les chants racistes de certains supporters, les clubs de foot ont simplement éloigné les micros. Et pour leur campagne de sensibilisation au racisme, avaient été choisis trois singes, l'insulte préférée des supporters racistes contre les joueurs noirs. Nouvelle preuve que le chemin à parcourir pour un football libéré des discriminations est encore long en Italie.
Music.
Et le mouvement mondial contre la violence et la discrimination des personnes noires, BLM, comme on le surnomme, n'a bien sûr pas épargné la scène musicale européenne. Vincent Théval, bonjour.
Bonjour Léa Elisa, bonjour à tous.
Vous nous parlez aujourd'hui de la chanteuse anglaise Zara McFarlane, née d'une mère jamaïcaine.
Le mouvement Black Lives Matter a rencontré un écho particulier au sein d'une nouvelle scène jazz anglaise très largement incarnée par des musiciens afro-descendants qui non seulement peuvent être engagés dans des combats politiques, mais aussi investissent aujourd'hui différemment leurs racines familiales et culturelles. C'est ainsi que la chanteuse Zara McFarlane, qui est née à Londres d'une mère jamaïcaine et a grandi dans le quartier de Dagenham, s'est récemment penchée sur la culture caribéenne pour alimenter ses derniers albums. En 2017, elle avait conçu Arise comme une réponse aux causes systémiques de Black Lives Matter. Et pour son tout récent Songs of an Unknown Tongue, elle s'est intéressée aux plus anciennes traditions et musiques folkloriques jamaïcaines en se rendant sur place, notamment à l'Université des Antilles, à l'Institut de la Jamaïque et à la Bibliothèque nationale pour en apprendre davantage sur la façon dont la musique était utilisée dans diverses traditions folkloriques. Le résultat est un album étonnamment moderne que Zara McFarlane décrit comme une célébration de soi, de l'identité, du passé et de l'avenir. Il explore, dit-elle, comment les effets du colonialisme résonnent dans ma vie actuelle.
Avec Zara McFarlane sur RFI et ce morceau Black Treasure, accent d'Europe, à la réalisation Victor Hull. Vous retrouvez le podcast de l'émission sur RFI.fr ou sur votre plateforme d'écoute. À lundi!